Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir avec le journal dans quelques secondes. 19h15, la carte blanche de l'économiste Nicolas Bouzou. Et puis 19h20, grand débat ce soir sur la prise en charge du grand âge. À quoi ressembleront les EHPAD du futur qui sont aujourd'hui tant décriés? Faut-il tout changer et favoriser la prise en charge à domicile ou les maisons intergénérationnelles? On ira voir ce qui se fait aussi chez nos voisins. C'est un sujet évidemment passionnant et qui nous concernera tous un jour. On en débattra donc avec nos invités. D'abord le journal avec Isabelle Millet. 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
C'est plutôt pour nous une super nouvelle. Bon, à vrai dire, on ne s'y attendait vraiment pas, pour le coup. À l'approche des phases finales de l'euro, on voit plutôt ça comme un soulagement aussi.
Tomber le masque en extérieur, sauf quand il y a du monde et sauf dans les cours de récréation, ce sera possible dès demain.
Et dès dimanche, fini le couvre-feu, des annonces qui réjouissent évidemment les professionnels de la restauration.
Et si le gouvernement accélère le calendrier du retour à la vie normale, c'est parce que tous les indicateurs sanitaires sont au vert.
L'affaire Élodie Kulik, actuellement jugée devant les Assises du Nord, la jeune femme avait été enlevée, violée, étranglée en 2002 dans la Somme.
Moment douloureux aujourd'hui, la diffusion de l'appel de la jeune femme aux pompiers au moment de son agression.
Les régionales en PACA, on en parle. La requête des Républicains contre Thierry Mariani, jugée irrecevable.
Immobilier, les villes moyennes confirment leur dynamisme.
Et puis au lendemain de leur victoire contre l'Allemagne, on prendra des nouvelles des Bleus. On sera en direct de Munich. La météo également avec Anissa Haddadi. Toujours 29 départements en vigilance orange. Prudence.
Oui, 28 départements de la moitié ouest du pays, des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à la Seine maritime, et puis le Rhône qui vient d'être placé en vigilance orange canicule. Il va faire très chaud cette nuit à Lyon et dans sa région, demain aussi. Les orages seront nombreux, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vous savez quoi, on va de nouveau voir les gens sourire, mais on va aussi voir ceux qui font la tête, on ne peut pas tout avoir. Hein.
En tout cas, c'est une forme de libération qui a été annoncée à la mi-journée par Jean Castex. La fin du masque à l'extérieur dès demain. Masque qui reste toutefois obligatoire à l'intérieur et à l'extérieur dans les lieux bondés, comme les stades par exemple ou encore les salles de concert.
Le Premier ministre qui annonce aussi que le couvre-feu prendra fin à partir de dimanche, ça veut dire qu'il s'appliquera une dernière fois dans la nuit de samedi à dimanche.
Et c'est tout sauf anodin pour les cinémas qui vont de nouveau pouvoir proposer une séance à 22h ou pour les théâtres et bien sûr pour les restaurateurs.
Comme Geoffrey Clavel, il gère le restaurant Le Pingouf, c'est à Lyon.
C'est plutôt pour nous une super nouvelle. Bon, à vrai dire, on ne s'y attendait vraiment pas, pour le coup. À l'approche des phases finales de l'euro, on voit plutôt ça comme un soulagement aussi. On va pouvoir refaire notre vrai métier, arrêter de faire systématiquement la police. Donc retrouver un contact un peu plus sympa avec nos clients, et ça c'est chouette. Ça nous permettra aussi, en termes de restauration, d'envisager un deuxième service de qualité et de pouvoir accueillir les gens qui pour des raisons d'affaires, de rendez-vous, de vie privée simplement, ont des habitudes un peu plus tardives de sortie. On va repartir au contact de cette clientèle-là aussi, qui est une vraie clientèle de sortie. Le chiffre d'affaires va se rattraper. On va pouvoir aussi redisposer un peu nos plannings et peut-être proposer d'autres modulations à nos staffs pour essayer aussi de les garder, de les motiver et d'en trouver d'autres. C'est un vrai pas de plus vers la normalité. Donc pour nous, c'est plutôt vraiment, vraiment une bonne nouvelle, un soulagement.
Le patron du restaurant Le Pignouf à Lyon, joint pour Europe 1 par Laura Taouchanoff.
Alors celui-là, dès que je vais à Lyon, je fais un détour, c'est promis, je vais dîner au Pignouf.
C'est Geoffrey Cavel.
Avec un nom comme ça. Merci à lui en tout cas. On entend la satisfaction des restaurateurs. Victor Delande, dites-nous pourquoi le gouvernement a-t-il choisi d'accélérer la levée de ses restrictions, aussi bien le port du masque en extérieur que la fin du couvre-feu à partir de dimanche?
Alors en fait, le gouvernement s'appuie sur des très bons chiffres. L'épidémie est en net recul, avec un taux d'incidence de 40 sur l'ensemble du pays. Il y a actuellement 3500 nouveaux cas de coronavirus par jour, soit une baisse de 40% sur les 7 derniers jours. C'est simple, on n'avait plus atteint un niveau de contamination aussi bas depuis la mi-août 2020. Et dans les hôpitaux, cette baisse est également visible. Moins de 12 000 patients Covid sont actuellement soignés dans les hôpitaux français et moins de 2 000 patients sont pris en charge dans les services de réanimation. Concernant le port du masque en extérieur, la plupart des spécialistes de l'épidémie semblent d'accord et pour cause, les contaminations sont 20 fois moins importantes dehors. En revanche, il y a comme un doute sur la levée du couvre-feu à partir de dimanche soir. Certains épidémiologistes redoutent notamment que cette annonce soit interprétée par certains Français comme la fin de l'épidémie. Ce n'est pas le cas, disent-ils. Même si le virus circule de moins en moins, il faut continuer à observer les gestes barrières et le port du masque à l'intérieur.
Évidemment, Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1.
Une actualité judiciaire très riche en ce mercredi, avec d'abord la condamnation à perpétuité de l'ex-compagnon de Julie Douib à Bastia.
Verdict de la cour d'assises de Haute-Corse avec une peine de sûreté de 22 ans pour Bruno Garcia.
Du nouveau également dans la l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn.
Cette jeune infirmière dont on est sans nouvelles depuis la mi-décembre, son mari est en garde à vue ainsi que 3 autres personnes de la famille de ce dernier.
Et puis des moments très forts aujourd'hui aussi au 3e jour du procès en appel de Willy Bardon. Devant les assises du Nord.
Jugé pour le viol et le meurtre d'Élodie Kulik, c'était en janvier 2002 dans la Somme. Lionel Gougelot, la Cour a entendu aujourd'hui pour la première fois la bande audio de l'appel téléphonique passé aux pompiers par la jeune femme au moment de son agression. Et c'est un moment qui a été extrêmement douloureux pour le papa de la victime.
Oui, effectivement, le père d'Élodie avait déjà enduré ce matin la présentation des photographies de la découverte du corps violenté et à moitié calciné de sa fille. Et cet après-midi, pour la première diffusion de l'enregistrement de l'appel d'Élodie Kulik aux pompiers, quelques secondes avant son agression, Jackie Kulik a préféré quitter la salle.
C'était pas la peine de me soumettre à nouveau à ce traitement.
À cette souffrance ?
Horrible, cette souffrance, exactement. Donc, je préférais sortir. Ma conviction est faite depuis bien longtemps. C'est tellement affreux quand j'entends la voix de ma fille. Il y a 2 voix que je reconnais, c'est bien celle et d'Élodie et de Bardon.
26 secondes d'un enregistrement où l'on distingue les hurlements de la jeune femme qui réalise à cet instant que ses agresseurs ne lui laisseront aucune chance. Durant l'instruction, des proches de Willy Bardon ont affirmé que l'une des 2 voix masculines en arrière-plan était la sienne. Des témoignages sujets à caution pour la défense de Bardon, maître Gabriel Duménil.
Bien sûr, nous souhaitions que cet appel puisse être diffusé au début du procès parce que c'est une pièce intéressante, elle fait partie du dossier, donc c'est légitime que les jurés et que la cour puissent en avoir connaissance. En revanche, il ne s'agit pas de la rabâcher, parce qu'on comprend la partie de l'accusation. Plus on va l'entendre, plus on va peut-être se forger une opinion. Les experts diront ce qu'ils voudront. Je pense qu'ils nous diront que cette pièce ne peut pas être utilisée dans le cadre d'un procès pénal. Et nous verrons bien.
Des experts en analyse vocale qui viendront exposer leurs conclusions la semaine prochaine.
Lionel Gougelot qui suit ce procès pour Europe 1 aux Assises du Nord. À quelques jours des régionales, le tribunal judiciaire d'Avignon juge irrecevable la requête d'élus Les Républicains qui contestaient la régularité de la candidature de Thierry Marianne. Le candidat du Rassemblement national est en tête des sondages pour les élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Oui, ces élus avaient saisi la justice pour obtenir sa radiation des listes électorales au motif qu'ils ne possèdent pas un domicile réel dans la ville. Ils ont donc été retoqués.
Franck Alizio est le porte-parole de Thierry Mariani et conseiller régional RN en PACA. Il accueille cette décision avec satisfaction.
Avec la même sérénité qu'on a accueilli cette affaire qui était montée de toutes pièces et qui a fait long feu et qui se termine aujourd'hui, bien évidemment, par un rejet. Par un rejet de la requête. On n'en attendait pas moins, ça a juste pourri l'ambiance de 10 jours de campagne. Nous, on souhaitait parler fond, souhaitait parler projet. Renaud Muselier et ses équipes souhaitaient parler boule puante. Ben, ils ont pu en parler pendant 15 jours. C'est une boule puante. Quand on est en difficulté, et c'est le cas de l'équipe sortante, du président sortant, eh bien, on essaie de créer des affaires, de s'en sortir par des subterfuges, par des affaires montées de toutes pièces. Et ça ne marche pas, la preuve.
Franck Alizio, conseiller régional RN en PACA, joint pour Europe 1 par Jean-Jacques Herry. Une poignée de main pour l'histoire, tête à tête entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Cet après-midi à Genève, leur discussion a duré plus de 4 heures. Rencontre constructive, selon Vladimir Poutine.
Europe 1, Julien Bugier.
19h07, restez avec nous dans quelques secondes. La suite du journal, ruée immobilière sur les villes moyennes.
Et séance d'écrassage pour les Bleus au lendemain de leur victoire contre l'Allemagne.
A tout de suite. La suite du journal dans Europe Soir, et c'est un des effets directs de la crise sanitaire et du télétravail. Les villes moyennes françaises ont été plébiscitées par les acheteurs de biens immobiliers.
Cette tendance a été observée dès le lendemain du premier confinement et elle semble se confirmer, Maud Descamps.
En effet, je vais vous donner quelques chiffres, vous allez tout de suite comprendre. À Besançon, par exemple, le nombre de transactions immobilières a augmenté de 110% entre 2019 et 2020. À Lorient, plus 20%. Même chose à Agen, plus 15% de transactions à Bourges. Si on fait la moyenne sur l'ensemble des villes moyennes en France, le nombre de transactions immobilières a augmenté de 4,5%. Alors ça peut paraître peu, hein, mais si on compare à la tendance nationale qui est de moins 4%, on voit bien que ces villes de plus ou moins 40 000 habitants ont attiré les acquéreurs. Des villes qui combinent plusieurs attraits, comme le détail Peggy Montesinos du Conseil supérieur du notariat.
Un coût de la vie plus abordable par rapport à celui des grandes métropoles. On a en plus une commodité de transport qui relie quand même les territoires plus facilement aujourd'hui. Et ce qui fait véritablement l'attrait de ces villes, c'est leur prix. On va dire que le coût moyen dans ces villes moyennes, c'est 200 000 euros.
200 000 euros pour une petite maison avec jardin, pour le prix d'un studio à Paris. Des arguments qui ont séduit les Franciliens qui ont été plus nombreux cette année à acheter en dehors de l'Île-de-France.
Les précisions de Maud Descamps du service Écho d'Europe 1. Au lendemain de leur victoire 1-0 contre l'Allemagne hier soir pour leur entrée en lice dans l'Euro, séance d'écrassage aujourd'hui pour l'équipe de France de foot, toujours à Munich et toujours sous vos yeux, Cyril de la Morinerie.
Oui, les Bleus ont préparé une séance légère dans une ambiance estivale, plus de 28 degrés au thermomètre. Tout s'est déroulé dans le magnifique FC Bayern München Campus, le centre d'entraînement des jeunes et des féminines. Situé à la sortie de la ville, une pelouse parfaite, d'un vert éclatant, de meilleure qualité que les trois quarts des terrains de Ligue 1. Alors Griezmann, Kanté, Pogba, Rabiot et Pavard ont trottiné le long du terrain pendant une trentaine de minutes. Les remplaçants ont fait un entraînement plus poussé. Quant à Lloris, Hernandez, Benzema et Mbappé, ils sont restés à l'intérieur du campus avec les kinés pour récupérer de leurs efforts. Raphaël Varane, qui a fait du vélo cet après-midi, n'a pas caché lors de la conférence de presse sa satisfaction d'avoir remporté ce premier match.
Je pense qu'on a réussi une belle performance, on a réussi à être solide. On a concédé très très peu d'occasions. Au niveau défensif, c'est surtout le travail de l'équipe qui a à mettre en avant. Je pense qu'on a vu nos trois attaquants défendre énormément, un milieu de terrain qui courait beaucoup. En plus, on n'a pas encaissé de but, donc forcément, pour la défense, c'est de la confiance en plus.
Une heure plus tard, les Bleus ont quitté le centre d'entraînement, direction l'aéroport, pour aller à Budapest, la prochaine étape de cet Euro itinérant. Les Français vont rester au moins une semaine dans la capitale hongroise, puisqu'ils vont disputer deux matchs contre la Hongrie et le Portugal.
Cyril Lamorinerie qui nous a fait vivre ce match hier soir en direct sur Europe 1.
En marge de cet Euro, une image ou plutôt un geste aux lourdes conséquences, celui de Cristiano Ronaldo, lundi dernier en conférence de presse.
Oui, la star portugaise a simplement déplacé de quelques centimètres des bouteilles de Coca-Cola qui se trouvaient sur le pupitre devant lui. Et la suite, vous allez nous la raconter, Clément Le Saff.
Oui, il faut imaginer la scène. Hein. Lundi, donc, veille de match du Portugal contre la Hongrie, Cristiano Ronaldo se présente devant les journalistes. Et alors que la conférence de presse va commencer, la star de la Seleção s'empare des deux bouteilles de Coca placées devant lui et les déplace hors du champ des caméras.
Coca-Cola.
Voilà, on l'entend pas bien, mais ce qu'il dit, c'est de l'eau, pas du coca. Hein. Il faut dire que le Portugais est connu pour son hygiène de vie très stricte. Il avait déjà dit lors d'une interview qu'il n'aimait pas que son fils boive du soda, sauf que cette fois, ben, ça va plus loin car Coca-Cola est un sponsor officiel de l'Euro et paye donc très cher pour que ses bouteilles soient bien visibles partout. Et puis, ce petit geste a coûté cher à Coca. L'action du groupe a chuté de 1% en deux jours. Alors, vous allez me dire, ça paraît peu, mais ça fait quand même perdre 4 milliards de capitalisation, des dollars, évidemment, 4 milliards de dollars de capitalisation au groupe. Ça en dit long donc sur l'influence que peut avoir Cristiano Ronaldo dans le monde. Il ne sera pas, malgré tout, sanctionné par l'UEFA, mais il a fait des émules hein, hier après la victoire contre l'Allemagne. C'est Paul Pogba qui a déplacé à son tour, non pas une bouteille de Coca, mais une bouteille de Heineken, une bouteille de bière, autre sponsor de l'Euro. Sauf que cette fois, l'action du géant de la bière n'en a pas souffert.
Oui, tout le monde n'est pas Ronaldo. Hein.
Ouais, exactement. Il a 300 millions de followers sur Instagram. 300 millions. S'il met demain un t-shirt rose, ça va booster les ventes de t-shirts roses. Voilà, c'est ainsi. C'est pas votre cas, Clément ?
Non. Non, j'ai pas 300 millions de followers sur Instagram,
c'est pas,
non.
C'est pas le mien non plus. Et vous ne mettez pas des t-shirts roses.
Non.
Vous avez un très beau t-shirt de l'équipe de France, d'ailleurs. Voilà, une étoile.
Quand on gagne, il faut l'assumer.
Merci Clément, merci Isabelle. À demain pour le 18-20. La météo à Nice Haddad, 19h14. Toujours 29 départements en vigilance orange.
Oui, toujours 28 sur la moitié ouest du pays et le département du Rhône placé en vigilance orange canicule. Alors demain, on aura presque une France coupée en deux. C'est à l'est, sur l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté et l'Auvergne, les Alpes et puis la Côte d'Azur. C'est là que le soleil va briller avec de très fortes températures. Vous aurez encore droit à une journée d'été sur la moitié est. Ailleurs, et notamment du sud-ouest au nord, les orages seront forts avec de la grêle, des rafales de vent, de la forte pluie. Attention en Nouvelle-Aquitaine, particulièrement sur les Pays de la Loire, dans le centre et en région parisienne. Demain, les orages seront assez violents et nombreux. Les températures, 15 à 22 degrés demain matin. Dans l'après-midi, toujours de la chaleur à l'est avec 36 degrés à Strasbourg, 35 à Colmar, 34 à Lyon, 31 degrés à Paris, 29 à Lille. À l'ouest, les températures baissent bien avec le passage des orages. 27 à Rouen, 25 à Nantes, 24 pour Bordeaux et 17 la minimale à Saint-Brieuc.
Merci Anissa. À demain 18h. Vous restez avec nous 19h15 dans quelques secondes. Le débat du Club des Idées. On parlera ce soir des EHPAD du futur. D'abord la carte blanche signée de l'économiste Nicolas Bouzou.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Et je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, vous vouliez nous convaincre, oui, que les élections régionales, eh bien c'est important.
Mais oui, alors c'est vrai que quand on voit les projections d'abstention, on est un peu inquiet. Les élections locales, à part les élections municipales, mais sont pas très populaires en France. Pourtant, les régionales, Julien, je peux vous promettre que c'est important. C'est important du point de vue économique, j'en parlerai dans un instant, mais c'est important aussi du point de vue politique et de plus en plus. Vous savez, il y a eu cette réforme opérée par François Hollande qui a consisté à faire des grandes régions, à faire fusionner la plupart des régions. Alors, c'est une réforme qui a généré pas mal de désorganisation, mais qui a quand même eu un avantage, c'est qu'elle a fait des régions des acteurs politique important. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des présidentes et des présidents de région sont connus du grand public. Certains pourraient être candidates à l'élection présidentielle. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle certains parlent d'une élection présidentielle à quatre tours, hein, les deux tours des élections régionales, les deux tours des élections présidentielles. C'est un peu ce qui se passe, vous savez, aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, la plupart des présidents, je pense à Ronald Reagan, je pense à Bill Clinton, je pense à George W. Bush, ont été gouverneurs. C'était des gouverneur très charismatique, gouverneur du Texas hein, pour George W. Bush, de l'Arkansas pour Bill Clinton, de Californie bien sûr pour Ronald Reagan. Ce sont des gens qui ont très bien réussi dans leur État et qui ainsi, dans un deuxième temps, ont pu accéder à la présidence.
Bien. Et vous dites aussi que ces élections, eh bien, c'est important d'un point de vue économique. Pourquoi ?
Fondamental. Alors, ce sont les régions qui ont ce qu'on appelle la compétence économique. C'est-à-dire que parmi les collectivités locales, ce sont elles qui ont les budgets et les marges de manœuvre les plus importantes pour aider les entreprises, pour aider aux relocalisations, pour aider à la réindustrialisation. Et d'ailleurs, elles le font. Hein. Elles l'ont beaucoup fait pendant la crise. Elles ont accompagné le plan du gouvernement, le plan France Relance. Elles l'ont complété. C'est très important pour les régions, mais c'est très important pour la France. Parce que vous savez, quand il y a une usine de batteries électriques qui s'implante dans la région Hauts-de-France, bah c'est important pour les Hauts-de-France, mais c'est important pour la France. Quand vous avez, ce qui pourrait être le cas ces prochaines années, un nouvel EPR, hein, une nouvelle centrale nucléaire de la nouvelle génération qui arrive en Normandie, c'est important pour la Normandie, mais c'est important pour la France. Quand dans la région Grande-Aquitaine, le président qui s'appelle Alain Rousseff fait un grand plan de modernisation de l'industrie pour équiper les usines en numérique, en intelligence artificielle, en robots, c'est important pour l'Aquitaine, mais c'est important pour nous. Les régions, c'est passionnant, c'est souvent là que se situent les gisements de croissance économique, c'est souvent là que se situent les politiques économiques qui sont les plus structurantes pour l'avenir. Ben voilà, j'espère que vous êtes convaincu. Allez voter.
Presque. Merci en tout cas. J'espère que vous avez convaincu nos auditeurs. C'est toujours bien d'exercer son droit démocratique. Allez voter. Merci Nicolas Bouzou.
Merci Julien.
Europe 1, Julien Bugier.
19h18, vous restez avec nous évidemment. Dans quelques secondes, on se retrouve avec le grand débat du Club des Idées, les EHPAD du futur. C'est un sujet majeur, un sujet qui nous concerne tous. On se retrouve après la pub avec nos invités. A tout de suite. 19h22 ce soir dans le Club des Idées, comment prendre soin de nos anciens? C'est la grande question des décennies à venir, alors que les établissements spécialisés type EHPAD sont en pleine mutation, de plus en plus décriés aussi. Comment les rendre plus ouverts, plus agréables, plus heureux en somme? Surtout après cette crise du Covid qui a mis au jour les faiblesses de notre système de prise en charge et d'accompagnement. Alors à quoi ressembleront ces EHPAD du futur? Faut-il inventer un autre modèle et s'inspirer de certains grands pays étrangers? On en parle ce soir avec nos invités. À Frédéric Bizard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à l'ESCP et président de l'Institut Santé. On en parle également avec Luc Brossi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de France Silver Eco, cofondateur du think tank Matière Grise, spécialisé sur les questions de vieillissement. Et vous avez publié ce fameux rapport sur l'EHPAD du futur avec Jérôme Gage. On en parle également avec Romain Gisolme. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Une question toute simple d'abord, peut-être un peu naïve. À quoi ressemblerait, dans un monde idéal, la meilleure prise en charge possible pour nos anciens? Frédéric Bizard.
Une prise en charge centrée sur les anciens, sur les besoins des anciens et pas sur l'offre, pas sur les EHPAD ou pas sur le domicile. Donc il faut partir des besoins à partir d'une liberté de choix, de où est-ce qu'on préfère en fonction de ces besoins aller. Ça peut être, vous savez qu'il y a une très large préférence pour le domicile, mais il y a un retard en France très important sur tout ce qu'on appelle les résidences intermédiaires, c'est-à-dire avant d'aller en EHPAD. Et puis l'EHPAD, c'est lorsque vous êtes véritablement dépendant, et on verra qu'il y a beaucoup de gens en EHPAD qui n'ont rien à faire en EHPAD.
Et puis, il y a plein de solutions autre aussi que ces EHPAD qui sont aujourd'hui encore une fois très décriés. Peut-être quelques chiffres à Luc Broussy sur la situation et la réalité aujourd'hui des EHPAD. Près de 650 000 personnes résidant, c'est à peu près le volume, oui, aujourd'hui dans une maison de retraite ou un EHPAD dont l'âge médian est de 88 ans. 21% des plus de 85 ans vivent aujourd'hui en EHPAD et on estime que dans les 10 ans qui viennent, on s'attend à une progression de l'ordre de 50% des 75-84 ans. C'est dire que le besoin de trouver des solutions est évidemment très très important. Vous êtes d'accord d'abord pour dire que le modèle des EHPAD aujourd'hui tel qu'il existe est obsolète ?
Oui, je suis aussi d'accord pour dire que la formule « c'était mieux avant » ne fonctionne pas, en l'occurrence.
Oui.
C'est-à-dire que il faut quand même se rappeler ce que étaient les maisons de retraite dans les années 80-90. Des chambres doubles, pas de sanitaire, des longs couloirs avec des chambres qui parfois pouvaient aller jusqu'à 3 ou 4 lits. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu cette révolution au début des années 2000. On est passé de la maison de retraite à l'EHPAD. L'EHPAD a beau être un sigle qui est d'ailleurs qui commence à être communément admis, même s'il n'est pas très joli, j'entends bien.
Oui.
Mais en tout cas, il traduit une réalité qui a été un grand, grand bond en avant en termes de qualité des personnels, de qualité des espaces, de l'architecture, de la qualité de la prise en charge. Mais tous les 20 ans, il faut remettre son logiciel à jour. Et là, je pense qu'on est arrivé à un moment où, effectivement, il faut se projeter vers 2030 et vers ce que les personnes âgées de demain voudront.
Alors, je voudrais passer un court extrême et qui résume quand même bien la situation que vivent des millions de familles aujourd'hui en France. C'est Régis, habitant du Nord, qui a placé sa maman en maison de retraite à contre-cœur, 1600 euros par mois. Et Régis, il dit ceci.
Il n'y a pas de moyens, pas de personnel. Comme je vous dis, les chambres sont vraiment petites, ça fait des chambres d'hôpital. Vous aviez l'impression que votre maman était malheureuse?
Oui, de toute façon, ça n'allait pas fort. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est le prix de ces choses-là. Vous allez voir en Belgique, vous avez à peu près deux fois mieux pour moins cher.
Alors, il y a plein de choses, hein, Romain Gisolme, dans cet extrait. Il y a d'abord la réalité, il y a aussi la mauvaise image des EHPAD. On a regardé un sondage avec les équipes d'Europe Soir. Avant la crise du Covid, donc on imagine que ça s'est accentué, les deux tiers des Français, 68%, ont une mauvaise image des EHPAD. Et seuls 13% des Français interrogés seraient prêts à intégrer un établissement spécialisé type EHPAD si leur capacité physique se dégradait avec l'âge. Les Français n'en veulent pas des EHPAD.
C'est clair. Ça paraît assez évident. Ça fait des années que les Français le disent et effectivement les témoignages le disent. Donc il faut savoir l'entendre. Et ça relève la difficulté de cette construction effectivement du modèle EHPAD qui a apporté un certain nombre d'améliorations, comme ça a été dit, mais qui pour autant n'a pas été construit sur la base des attentes et des réponses de fait aux attentes des personnes âgées elles-mêmes. Et c'est cela qu'il faut transformer. Oui. C'est à partir de cela qu'il convient de partir. Là aussi, c'est évident que c'est en partant des attentes et de la réponse aux attentes des personnes concernées que nous trouverons le bon modèle à mettre en place en termes de structure pour accompagner les personnes âgées, qui devra effectivement être diversifiée. L'EHPAD a été construit sur un modèle très protecteur, très sécuritaire, beaucoup trop médico-centré, et la crise a clairement montré qu'il n'était pas à la hauteur.
Je voudrais vous repasser une petite archive, puisque vous évoquiez tout à l'heure l'histoire des EHPAD. C'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, le sort des personnes âgées n'était pas très enviable. L'habitat des personnes âgées, ça a été un défi des 30 Glorieuses au milieu des années 60, avec ces nouveaux logements pour retraités qui poussent un peu comme des champignons partout en France, et la construction dans les années 70 de ces maisons de retraite et de ces EHPAD. Extrait qui date de 1973. À l'époque, pour faire du lien entre les anciens et les plus jeunes, une maison de retraite avait mis en place une opération appelée un peu maladroitement Poisson Rouge, où les résidents avaient pour mission de s'en occuper pendant les vacances d'été des propriétaires. On écoute.
Ça fait un peu de vie dans votre appartement, un peu de vie supplémentaire?
Vous savez, on peut tenir à soigner un poisson quand même.
Après les vacances de son propriétaire, ça ne va pas quand même vous faire un petit peu mal au cœur de laisser partir le poisson rouge que vous avez gardé?
Si vous ne le laissez pas le mien, je le redonnerai avec plaisir, mais je serai contente de l'avoir soigné.
Voilà, et ça pose la question à travers cette anecdote, ça pose la question évidemment de recréer du lien social pour les anciens. On en parle juste après la pause, 19h28 avec nos invités, à tout de suite. Et ce soir dans le Club des Idées, on poursuit la discussion et le débat sur cette question, hein, comment prendre soin de nos anciens. C'est la grande question évidemment de la décennie, et on parle plus particulièrement des EHPAD et des solutions d'avenir pour cette grande dépendance dans les décennies qui viennent. Luc Broussy, vous êtes président, je le disais, de France Silver Eco. L'enjeu du maintien à domicile, le gouvernement mise énormément dessus. Il y a une pression très forte aujourd'hui, hein, pour trouver des solutions et développer massivement le maintien à domicile des seniors. Est-ce que dans un avenir proche, ce sera possible.
C'est déjà possible. L'immense majorité des personnes âgées vieillissent à domicile. Ce qui va probablement changer, c'est que c'est le chez-soi qui va changer. Il faut bien avoir conscience que vieillir à tout prix dans la maison dans laquelle il y avait un jardin, dans lequel on a élevé ses enfants, dans lequel on vivait avec son mari, eh bien, à un moment donné, ce logement devient impraticable. Et donc, on va devoir probablement en changer pour vivre plus longtemps, au fond. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne vieillira pas chez soi.
Mais c'est inéluctable.
Non, mais ce qui est inéluctable, c'est qu'à un moment donné, si on veut gagner des espérances de vie, vieillir chez soi, ce n'est pas vieillir dans un lieu dans lequel le risque est quotidien. Oui. Je rappelle un chiffre absolument extraordinaire. 9000 personnes âgées meurent chaque année, c'est trois fois plus que les accidents de la route, de chute à domicile. Oui. Donc il faut adapter les logements, et quand ce logement n'est pas adaptable...
Mais est-ce qu'on vit plus heureux dans un EHPAD que chez soi ?
Mais c'est en ça qu'il faut transformer le modèle.
Je vous dis que c'est la notion de chez-soi qui va changer.
Absolument.
Donc la génération qui arrive, qui va avoir 85 ans en 2030, c'est la génération qui avait 23 ans en mai 68. C'est une génération qui va innover. Elle va innover sa vieillesse comme elle a innové, ou comme elle a tenté en tout cas, de transformer la société. Donc, il va y avoir des résidences seniors. C'est un phénomène qui explose déjà aujourd'hui.
Oui.
C'est-à-dire que je vais choisir de changer de logement pour avoir un logement adapté. Mais c'est mon choix.
Oui.
Je ne vous parle pas de l'EHPAD. Je vous parle du stade avant l'EHPAD. Des personnes vont changer de logement parce qu'elles estiment que ce changement de logement à l'instant T va leur permettre de vieillir de manière beaucoup plus harmonieuse.
Romain Gisolme, c'est ça l'avenir ? C'est créer des lieux où on pourra vivre dans un espace médicalisé, mais chacun chez soi ?
Pas forcément médicalisé. La vieillesse n'est pas une maladie. On peut avoir des fragilités qui nécessitent d'être accompagnées pour un certain nombre des actes de la vie quotidienne, mais c'est pas forcément de la pathologie médicale ou médicalisée. Donc, l'essentiel, c'est effectivement partant de ce que nous disent les Français, de ce qu'attendent les Français, de ce que souhaiteront effectivement ces générations qui se sont battues pour leur liberté et qui sont attachées à leur liberté à juste titre. Eh bien, s'ils nous disent vouloir du chez-soi, il va falloir effectivement imaginer des solutions qui permettent ce chez-soi, mais de façon diverse. Que les gens, pour ceux qui le souhaitent, puissent vivre dans des logements individuels qui soient adaptés, avec suffisamment d'aide à domicile pour les accompagner pour un certain nombre de besoins.
Oui.
Et puis, de la même manière, pouvoir aussi proposer des formes de structures qui soient des habitats regroupés, qui soient des chez-soi regroupés, parce que ça peut permettre une facilité d'accès à un certain nombre de services.
Alors, une fois qu'on a dit ça, je voudrais qu'on soit concret. Je voudrais vous passer un extrait d'un documentaire qui s'appelle « Dans quelle France on vit ?», diffusé en décembre 2018 sur RMC Story, et qui parle de l'habitat regroupé, des résidents qui ont chacun un chez-soi, mais avec un extérieur commun et de la domotique.
La maison de retraite du futur, ce sera un lieu avec une technologie pas trop visible, de façon à ne pas inquiéter, et surtout, très important, un lieu qui soit construit en fonction des besoins de ses occupants.
Ça n'a rien à voir avec une maison de retraite où vous êtes caserné dans une chambre enfermée là-dedans.
On cède, c'est super bien. Puis on a des beaux appartements.
Non, moi, je suis reparti pour 20 ans ici. Hein. On va pas se débarrasser de moi comme ça. Hein.
Vachement bien, ça, Frédéric Bizarre. On a envie de ça pour tous nos anciens.
Voilà, on a un bon exemple. Mais si vous il faut avoir une vision un petit peu globale, je pense, de cette prise en charge des personnes âgées. Le système aujourd'hui est absolument kafkaïen sur le plan du modèle économique, sur le plan où, si vous regardez dans les EHPAD, vous avez plutôt intérêt à faire un maximum d'économies sur l'hôtellerie si vous voulez avoir une marge suffisante pour les établissements à but lucratif. Donc vous tirez un maximum sur des budgets essentiels comme la nourriture, et donc vous avez véritablement des situations un peu... Moi, il faut regarder ça de façon globale et pour considérer qu'il y a une gradation de la prise en charge. Il y a le domicile qui doit être optimisé, ça a été dit avant. Clairement, il y a des investissements à faire pour permettre aux gens qui le souhaitent, avec les innovations technologiques, de le faire dans de meilleures conditions. Vous avez ensuite tous ces résidences intermédiaires. Alors, on dit que ça explose. Oui, mais enfin, il y a un retard qui est absolument colossal. Les résidents intergénérationnels, et moi, ça fait quand même des années qu'on dit ça le fait, mais enfin, manifestement, là, il y a un problème. Or, c'est comme l'hôpital. Si vous voulez désengorger l'hôpital des patients qui n'ont rien à y faire, il faut travailler en amont.
Oui.
Donc, il faut réorganiser le domicile, il faut réorganiser ses résidences. Et à ce moment-là, vous pouvez repenser les EHPAD. Parce qu'on peut dire qu'il y a 200 000 personnes qui n'ont rien à faire dans les EHPAD, mais elles le sont par défaut.
Oui.
Parce que justement, l'amont n'est pas organisé.
Mais ma question portait aussi sur le lieu même de l'EHPAD, sur la manière dont c'est organisé.
C'est la même chose, parce que moi, je pense...
Plus à un, ce qui permet un hall de gare,
non,
un hôpital.
Mais
on n'a pas envie d'y passer ces vieux jours,
non,
pour
mais
être
il
clair.
Faut à la fois que ça soit, je pense, moi, que ça soit très médicalisé, parce que ce sont des lieux pour des personnes dépendantes, d'accord ? Donc ce n'est pas la peine de faire des EHPAD luxueuses avec des machins, parce que malheureusement, les gens souffrent de maladies neurodégénératives et de toute façon ne profitent pas de, cet environnement.
Mais il y a aussi des personnes qui viennent les visiter.
En revanche, la qualité de la prise en charge, en intégrant véritablement les besoins qui sont des besoins médicaux, doit être très largement optimisée.
Je voudrais qu'on pose la question à Philippe Chabas, qui est avec nous en ligne, responsable de la gestion et de la conception d'habitat social intergénérationnel pour les personnes vieillissantes, avec l'association Habitat et Humanisme. Bonsoir, monsieur.
Oui, bonsoir.
Bon, l'EHPAD du futur, ça ressemble à quoi pour vous ?
L'EHPAD doit être en lien, je crois, avec le domicile. On parle beaucoup là du domicile. Nous, ce qu'on fait à Habitat Humanisme, c'est des résidences intergénérationnelles, c'est-à-dire qu'on mélange les générations pour essayer de créer du lien social. Et pour moi, le domicile, tout le monde le réclame, et l'adaptation du domicile, c'est pas seulement de la domotique, c'est d'abord du lien social. Le risque du domicile, c'est la perception de solitude, d'isolement, voire d'insécurité.
Oui.
On sait aujourd'hui de plus en plus que le lien social est un déterminant de santé. Donc si on parle de prévention de la dépendance, l'isolement accélère la dépendance. Donc ce qu'il faut faire dans le domicile, c'est ce qui a été dit, hein, c'est créer du lien social. Donc c'est ce qu'on fait à travers l'intergénérationnel. Il y a différentes générations, il y a des animateurs, il y a des lieux collectifs qui créent cette vie sociale. Le jeune, il va aider la mamie à faire les courses, la mamie, elle va garder les enfants de la famille en difficulté. Donc c'est vraiment un écosystème à l'intérieur de la résidence où il y a ces logements. Mais cet écosystème doit être relié à une plateforme de services qui, elle, peut partir d'un EHPAD, hein, parce que dans le rapport de Luc Broussy, on précise bien que 50%, je crois, des Français vivent à moins de 3 km d'un EHPAD. Donc, une des transformations de l'EHPAD, c'est justement de faire sortir ce service des murs pour pouvoir permettre à des gens qui veulent rester à domicile d'avoir à portée de main un certain nombre de services. Ça peut être apporter des repas, peut être un service infirmier.
On va poser la question, merci cher monsieur, on va poser la question à Luc Broussy qui est à mes côtés dans le studio d'Europe Soir. Les maisons intergénérationnelles, sur le papier ça paraît formidable. C'est possible de les généraliser, ce type de système ?
C'est un modèle qui a mis un peu de temps à devenir à maturité. Et puis, lors de l'étude qu'on a pu faire, on s'est rendu compte qu'énormément de bailleurs sociaux maintenant vraiment multiplient ce modèle. Et je pense que ça va vraiment se développer. Bon, mais là, on parle quand même.
Ça coûte plus cher ou pas ?
Ah ben, ça coûte moins cher parce que c'est que du logement.
Ça coûte moins cher. C'est que
les gens intergénérationnels, il n'y a pas de soins. C'est pas du tout le même modèle. Mais par contre, c'est une solution en tout cas donné à des seniors peut-être un peu plus jeunes et quand même valide. Quand on parle de l'EHPAD, ne parlons pas de deux choses différentes. Il y a toute une série de modèles alternatifs qui sont des modèles pour des personnes qui ne sont pas lourdement dépendantes.
Oui.
L'EHPAD restera parce qu'on aura toujours besoin d'un hébergement quand les autres solutions ne sont pas possibles. Donc, ne nous posons pas la question, y aura-t-il demain des EHPAD ? Il y aura des EHPAD.
Oui.
La bonne question, c'est quel EHPAD ? Et vous l'avez posé.
Ben justement, on en parle après la pause, 19h39. Et puis, je voudrais vous parler d'un exemple absolument incroyable, ce nouveau village à Dax, village Alzheimer. À tout de suite. Les EHPAD du futur au menu ce soir donc du Club des Idées, toujours avec nos invités. Alors j'évoquais il y a quelques instants ce village Alzheimer, 150 000 mètres carrés, qui accueille 120 résidents répartis au sein de 4 quartiers. Ça se passe du côté d'Ax, c'est tout nouveau. Au milieu, imaginez-vous une place bordée d'arcades, avec un bistrot, une épicerie, un coiffeur, un restaurant, qui est le lieu de rencontre privilégié entre résidents, personnel, famille et visiteurs, et qui permet l'accès aux différents équipements. Le personnel médical n'a pas de blouse blanche et pourtant il est bien là. Les villageois bénéficient d'une grande liberté avec un parc de 5 hectares. Il y a une médiathèque ouverte aux habitants des villes alentours, des écoles qui ont accès à ce parc et qui entretiennent un potager. Sur le papier, Luc Broussy, vous connaissez ce
évidemment.
Lieu évidemment, parce formidable, idyllique.
Mais évidemment, et il faut des projets comme ça pour faire avancer tous les autres. Bon, mais c'est un projet qui a demandé beaucoup de moyens. Je ne pense pas qu'il soit aisément reproductible sur l'ensemble du territoire, mais c'est des projets comme ça
intéressant, qu'il faut avancer. C'est la philosophie. Parce que
mais sur la philosophie, vous avez
parfaitement
la question,
raison. Je disais, quelqu'un qui atteint d'Alzheimer à un niveau relativement avancé, qu'est-ce qui se passe là-dedans ?
C'est pour ça que
le risque est assumé.
Le risque est assumé.
Ils disent, si la personne se perd, par exemple, dans le parc, il finira par trouver quelqu'un qui le remettra sur le droit chemin.
Vous avez raison, c'est pour ça que l'EHPAD, c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est pas seulement le gestionnaire d'EHPAD, vous voyez, qui construit ses quatre murs et qui héberge des personnes, c'est le débat à tous. Et le débat de l'équilibre entre la liberté et la sécurité, c'est un débat qu'il faut avoir aussi avec les familles, qu'on a eu pendant un an au fond. Hein. Et c'est ça qui va présider aussi à ce qu'est l'EHPAD de demain. C'est aussi, est-ce que j'ai le droit de manger ce que je veux ? Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas pour des règles de sécurité. Est-ce que demain, j'aurai plutôt une chambre de 30 mètres carrés, plutôt un logement de 30 mètres carrés plutôt que d'avoir une chambre ? Peut-on vivre dans une chambre ?
Le summum a quand même été atteint pendant la crise du Covid. Oui, des résidents dans tous les sens. Qui avaient interdiction de sortir.
Ça, c'est un des éléments qui convient.
Qui avaient interdiction
de c'est un des éléments qui convient profondément de changer, quels que soient les modèles qu'on peut imaginer. Et effectivement, un des points intéressants que soulevait Luc Broussy sur l'exemple que vous donniez, c'est d'abord le nombre de professionnels qui est mis à disposition pour accompagner les gens qui vivent sur ce village, qui sont sans commune mesure avec le nombre de professionnels dans n'importe quel établissement personnes âgées aujourd'hui, voire même à domicile. Donc il faut toujours considérer qu'à domicile, aujourd'hui, les gens y vivent 23 heures sur 24 seuls. Hein. Mmh. Ensuite, le deuxième point, c'est celui du rapport à la liberté. Parce qu'il est là le point essentiel. C'est comment effectivement nous faisons de ces concitoyens, qu'ils habitent dans n'importe quel type de structure, des citoyens français avant tout. Et aujourd'hui, par exemple, il n'est plus acceptable qu'il soit imposé à ces gens de devoir avoir leurs proches demander un rendez-vous pour venir les visiter et que l'État maintienne cela quand tous les Français retrouvent la liberté d'aller dans les terrasses, dans les bars, dans les cinémas, et c'est tant mieux. Et aujourd'hui, vous avez un État qui est encore sur une vision très sécuritaire de l'approche de l'accompagnement des personnes âgées et qui vous dit les personnes âgées n'ont pas le même droit que tout autre concitoyen au seul prétexte qu'ils habitent dans des EHPAD. Et c'est ça la difficulté majeure de ce modèle.
Évidemment fondamentale. Frédéric Bizard, vous parliez tout à l'heure, à juste titre, de modèle économique pour ces EHPAD. Il faudrait qu'on dise un mot de ce qui se passe, par exemple, dans les pays nordiques, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark, qui ne parlent pas, c'est important aussi le vocabulaire utilisé, de prise en charge de la dépendance, mais absolument, de compensation de la perte d'autonomie, absolument, avec par exemple en Suède quelque chose de formidable, puisqu'on parlait de modèle économique, c'est l'État qui subventionne des politiques de prévention tout au long de la vie, qui permet d'avoir une aide à domicile jusqu'au moment où ça n'est plus possible, mais vraiment très très loin. Voilà. C'est un changement de paradigme de modèle économique.
Oui, c'est aussi une autre base philosophique et je pense que les pays nordiques ont raison. Nous, on a vu qu'on a séparé la cinquième branche, on a créé une cinquième branche pour le risque de dépendance. Or, c'est le continuum d'une politique de santé. C'est un problème de santé publique, ça a été très bien dit. La vieillesse n'est pas une maladie. La perte de la dépendance on rentre dans une maladie. Donc, ça doit être le continuum d'une politique de santé qui d'abord est axée sur le bien vieillir, parce que si on veut bien gérer cette phase là, il y a une politique de prévention qu'on ne fait pas suffisamment à d'autres âges aussi, mais qui doit être pensée là. Dans la prévention, ça a été très bien dit, le déterminisme, les déterminants sociaux, de liens sociaux sont extrêmement importants pour conserver. Donc, c'est pour ça que et les pays nordiques, là-dessus, considèrent véritablement que c'est un risque maladie comme un autre qu'il faut gérer comme une maladie. Et c'est pour ça que moi, je pense que... Et ça, on ne sait pas très bien le faire en France, mais dans tous les pays, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau. On n'a pas de solution, sinon ça ce serait. Donc moi, je pense que la pluralité des solutions, la puissance de créativité de l'humain doit être laissée pour essayer toujours améliorer les solutions existantes. Mais clairement, l'EHPAD d'aujourd'hui, où vous avez 15% qui est quand même une forme de prison dans un EHPAD, parce que vous êtes obligé pour des raisons de sécurité, mais enfin de faire, n'est quand même pas la solution d'avenir. Mais une fois qu'on a dit ça, on sait que c'est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut laisser la créativité humaine aussi en action.
Mais est-ce qu'on doit laisser les entreprises qui gèrent ces EHPAD totalement libres de leur modèle économique, Luc Broussy? Je pose une question évidemment, c'est une question qui revient souvent dans le débat.
Oui, alors elles ne sont pas totalement libres, puisque tout ça est quand même un peu régulé. Mais
il y a eu beaucoup d'excès, ça a été montré dans des reportages et des enquêtes dont on gérait aussi
Par exemple, tout ce qui est dit tout à l'heure, on économise sur la restauration pour faire plus de profit, tout ça sont des constats qui n'ont absolument aucun sens, si je puis me permettre. La dépendance et le soin sont des tarifs. Tout ce qui relève de la dépendance et du soin, c'est des tarifs qu'on soit dans le secteur public, dans le secteur privé, c'est régulé exactement de la même façon. La différence se fait sur l'hébergement. Et effectivement, chacun, à 85 ans, a la liberté, et a les moyens d'ailleurs, d'aller dans un établissement ou dans un autre. C'est la liberté de chacun. Là, pour le coup, on n'est pas à l'hôpital, on n'est pas dans un service public.
Et donc, c'est pas une liberté qui dépend de ses moyens financiers.
Mais absolument, mais tout à fait. Comme certains vont à Sofitel, d'autres vont à l'Ibis. Et donc, en fonction de ses moyens. Mais par contre, ce qui est essentiel, c'est que ce qui ne doit pas être en fonction des moyens, c'est évidemment la prise en charge de la dépendance
mais
et des soins.
Sur les soins à l'hôpital. Sur les soins à l'hôpital, vous ne choisissez pas entre l'hôtel et Sofitel et l'Ibis. Chaque individu, c'est l'universalisme.
Absolument.
A le droit aux mêmes soins.
Absolument.
Pourquoi il n'en va pas de même pour les maisons de retraite?
Parce que tout le monde a le droit aux mêmes soins, monsieur. Tout le monde a le droit aux mêmes soins. La différence se fait sur la qualité de l'hébergement. Parce que c'est un substitut du domicile, donc vous ne vivez pas dans le même domicile, certains. Oui. Bon, et donc, la différence se fait sur l'hébergement, absolument pas, et ce serait scandaleux que ce soit le cas.
Sur la qualité sur des soins.
Sur les soins et sur la dépendance qui sont prises en charge.
La qualité de l'hébergement et la nourriture fait partie du... on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, la qualité du lien social, de la qualité de vie est un déterminant de santé, et dire, mais non, mais l'hébergement, ce n'est pas grave, ça correspond. C'est essentiel. Plus vous vieillissez, plus l'hébergement et la qualité de la nourriture. Donc, il faut une régulation. C'est pas la question de il y a pas de dénonciation ou de choses. La question c'est qu'il faut une régulation du système qui permette de pas avoir ces 7 milliards et demi de reste à charge qui fait que vous avez à peu près 1800 euros de reste à charge qui sont bien trop importants pour le faire. Ça se régule, d'accord. Il faut revaloriser les tarifs des soins parce que justement si vous sortez d'une logique où vous n'avez que la restauration et l'hébergement pour faire du profit, parce qu'il y en a qui cherchent le profit et c'est bien normal, puisque quand vous êtes une société privée, si vous ne faites pas de profit, vous ne pouvez plus investir et vous ne pouvez pas rentabiliser le capital.
Je vous promets qu'on fera un autre débat sur le modèle économique.
Oui, mais c'est important.
Mais c'est important, vous avez raison de le rappeler. Je suis navré parce qu'on arrive au terme de... Donc on me presse un peu et c'est bien normal, car derrière, on a les archives à suivre d'Europe Soir. On reviendra ce soir sur les émeutes de Soweto en 76. A tout de suite. Oui, avec la suite du Club des Idées, 19h52. 3 minutes pour comprendre. Quand le passé éclaire le présent, ça s'appelle le jour où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Bien ce week-end.
Bonsoir Caroline Baudry.
Bonsoir.
Alors ce soir, on remonte 45 ans en arrière. Le jour où, ce 16 juin 1976, le début des émeutes de Soweto, une banlieue au sud-ouest de Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce jour où plus de 500 écoliers et étudiants sont massacrés par la police de l'apartheid.
Oui, des jeunes noirs et métis descendus dans la rue pour dénoncer pacifiquement un décret, celui qui les oblige à apprendre l'afrikaans à l'école. C'est une sorte d'ancien néerlandais parlé par les colons blancs minoritaires installés en Afrique du Sud. La raison de ce décret, qu'ils puissent travailler à leur service, à l'usine ou à la ferme. Une énième loi discriminante, celle de trop pour ces jeunes de la ville de Soweto, décrite par le journaliste Michel Colomb sur l'antenne d'Europe 1.
C'est une ville complètement noire, de officiellement 950 000 habitants, qui se trouve complètement en dehors de la ville blanche et dans laquelle sont littéralement parqués les noirs qui travaillent dans les usines. Car ces noirs, sauf s'ils sont employés de maison, n'ont pas le droit d'habiter dans la ville blanche.
Alors cette répression, Caroline, marque le début d'une nouvelle ère, le régime ségrégationniste de l'apartheid, qui commence à s'ébranler.
Et oui, parce que le monde entier découvre cette photo, celle d'Hector Peterson, 12 ans, agonisant dans les bras de ses camarades. C'est le premier à tomber sous les balles du régime. La révolte s'étend à d'autres quartiers noirs, la répression est féroce. Les Sud-Africains souhaitent attirer l'attention internationale sur leur sort. Alors un mois après la journée d'émeute, Jean-Claude Ganga, un Congolais, annonce le boycott des Jeux Olympiques de Montréal par 22 pays africains.
Il y a un cri des Noirs qui condamnent le racisme. Et il y a actuellement des millions de Noirs qui souffrent en Afrique du Sud. Nous pensons que la communauté internationale doit se saisir de ce problème et faire quelque chose.
Et les pays occidentaux finiront, Caroline, par s'élever contre ce régime ségrégationniste.
Un an plus tard, en 1977, l'ONU décrète un embargo sur la vente d'armes à l'Afrique du Sud. C'est le début d'un long boycott politique, économique du pays. Là-bas, le Congrès national africain, l'ANC, prend de l'ampleur. C'est le parti du fameux Nelson Mandela, militant anti-apartheid, emprisonné depuis le début des années 60. Lors de sa libération, le 11 février 1990, le journaliste François Clémenceau est envoyé spécial à Soweto où habitait ce héros national.
Là, je suis donc ici à Soweto, juste à côté de la maison de Nelson Mandela.
y a autour de moi des dizaines de gens qui sont fous de joie, littéralement fous de joie. Ils sont tous en train de chanter, en train de danser la danse traditionnelle de Toy Toy, la danse africaine, devant cette toute petite maison, cette maison de briques rouges avec un minuscule jardin qui a été littéralement investi par la foule de Soweto.
Et la foule de Soweto devant laquelle Nelson Mandela, futur président, prononce un discours historique deux jours après sa libération.
I have looked keenly to this day, the day when I would come back to an area.
C'est grâce à votre combat, à votre lutte incessante et à votre discipline que je suis enfin de retour parmi vous. Voilà les premiers mots qu'a prononcé Mandela devant son peuple de Soweto.
Aujourd'hui, dans la ville, un mémorial a été construit en mémoire de cet épisode sanglant ce 16 juin, journée aujourd'hui fériée dans toute l'Afrique du Sud.
Merci Caroline pour ces archives, Caroline Baudry, et ce récit. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56, dans quelques secondes, le rappel de l'info avec le 20h, Julien Pierce et puis Lionel Rosso pour l'émission Foot. Salut Lionel.
Salut Julien.
Comment ça va?
Ça va très bien. Bon. On est passé pas loin avec notre pronostic hier soir.
1-0. Mais l'important, c'est de gagner. À la fin, c'est la France qui gagne.
Bien sûr, bien sûr. Pour une fois, bravo en tout cas.
Quel est le programme ce soir, Lionel?
On revient sur cette belle victoire face à l'Allemagne. Notre invité sera Bernard Gengini, qui a fait partie du carré magique et qui a été champion d'Europe avec la France en 1984. Nos experts, Aline Riera, Laurent Fournier, Javier Prieto Santos. On évoquera aussi le match du soir que l'on suivra en intégralité sur Europe 1. L'Italie face à la Suisse. Ça sera particulièrement intéressant de voir comment se comportent nos voisins italiens qui ont gagné au match aller, le match d'ouverture. Voilà pour le programme, Julien.
Merci Lionel, on sera évidemment à l'écoute et au rendez-vous. Merci de votre fidélité et à vous qui nous écoutez. À demain 18h.